D'être gagnant pour le podcast tout seul, le numéro 32. Aujourd'hui, on va parler de scandale. Voilà. Il va y avoir du sang partout. Il sera question de sexe et de gens connus qui font des choses incroyables. En fait, pas vraiment. Mais il va quand même être question de scandale. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite compilation de scandales dans l'univers de la musique, c'est-à-dire les fois où on s'est rendu compte que le chanteur ou la chanteuse n'était pas vraiment le chanteur et la chanteuse. Tout ça est venu d'un article sur Mental Floss qui parle de Milli Vanilli 30 ans plus tard. Pour ceux qui ne connaissent pas Milli Vanilli, c'était un genre de boys band avant les boys band, si on peut dire, qui ont connu énormément de succès avec leur premier album qui s'appelait Girl, You Know It's True, sorti en 1989, et on va entendre 2-3 extraits, et vous allez voir que c'est terriblement 1989. Donc déjà, il y a Girl, You Know It's True, le titre de l'album. Girl, you know it's true. Personnellement, moi, j'avais un petit faible pour Blame It On The Rain. C'est, encore une fois, c'est très fin des années 80. Et qui dit Boys Band, dit fin des années 80, obligé, il fallait qu'il y ait une power ballade avec tout ça. Et eux, ils l'ont eu avec Girl, I'm Gonna Miss You. It's a tragedy for me to see the dream is over. And I never will forget the day we met. Girl, I'm gonna miss you. Même pas sûr si c'était sur le même album, mais ça change rien. Le point, c'est, vous voyez ce que c'est. Si vous ne les avez jamais vus, c'était deux super beaux gars avec des longs dreads qui avaient été mis en place par un producteur allemand qui s'appelle Frank Farian. Les deux gars s'appellent Rob Pilatus et Fab Morvan. Et le producteur allemand, donc Frank Farian, c'était pas la première fois qu'il arrivait à créer un groupe avec du succès. C'était aussi... Ils ont déniché une bonne vache à lait avec un groupe qui s'appelle Bonnie M. Et là, c'est sûr, à 100%, vous connaissez au moins ce refrain de Bonnie M. Et Milli Vanilli, donc énormément de succès, numéro 1 Top of the Pops, Grammy pour le meilleur nouvel artiste. Voilà. Mais... il y avait des rumeurs comme quoi c'était pas vraiment eux qui chantaient, des rumeurs qui étaient plus ou moins insistantes. Mais il y a eu une journée où ils ont fait une prestation live et il y a eu un bug avec la piste qui roulait. Ça s'est mis à tourner en boucle et un des deux gars a paniqué et a juste fait « fuck it » et il a quitté la scène en courant. Et l'extrait existe sur YouTube. Donc forcément, les rumeurs ont été de plus en plus persistantes jusqu'à ce qu'à un moment donné, la bulle allait péter. Et donc, le producteur, Frank Farian, décide d'organiser carrément une conférence de presse. Ça a lieu le 15 novembre 1990 pour annoncer que oui, en fait, c'était pas vraiment eux. Et c'était même pas du tout eux qui chantaient. Et c'est là que l'histoire devient encore plus fascinante. Le Grammy a été retourné. Les deux gars se sont retrouvés complètement coincés dans la situation. Leur carrière a évidemment planté. Je dis évidemment, parce que je veux dire, ça fait partie du passé. Je trouve pas ça si évident qu'on les plante pour ça. Ils ont fait eux-mêmes une conférence de presse quelques jours après avec un coach vocal pour essayer de prouver au monde qu'ils savaient chanter. Le producteur disait qu'il n'avait jamais entendu des aussi mauvais chanteurs de sa vie et que le point, c'était juste d'utiliser leur image parce qu'il y avait une image cool pour pouvoir vendre des disques. Le producteur ne s'est jamais caché, absolument pas, du fait que c'était un coup marketing. Lui, il trouvait ça très bien, il ne voyait pas le problème. Et il disait que les gars étaient au courant depuis le début aussi, ce que les gars ont toujours contesté. Il a dit quand même une phrase qui me fait rire. Il fait, mais les gars, c'était pas des vrais bosseurs. Ils préféraient faire la fête toute la nuit et se lever au milieu de l'après-midi dans leur chambre d'hôtel. Oui, il y a plusieurs autres exemples de rockstars qui aiment faire ça. Ça n'a pas changé grand-chose. Et le case des gars de Milli Vanilli, c'était, OK, on n'a pas chanté, mais l'image, c'était nous. La tournée de spectacle, c'était nous. Les émotions que les gens ont ressenties, c'est quand même nous qui les avons créées. Et ça n'a pas été suffisant. Tombé dans la drogue, il y en a un qui a réussi à s'en sortir. Et l'autre est décédé d'une overdose éventuellement. Et je connaissais cette histoire-là, j'avais déjà entendu. Je me suis toujours demandé, c'était quoi le problème? Le fait de faire semblant et d'essayer de duper les gens. OK, mais quand tu vois comment les voix peuvent être modifiées en studio, quand tu vois genre, les Pussycat Dolls, 5 danseuses, une super chanteuse, c'est mélangé. Je ne vois pas le problème. Les acteurs, c'est pas eux qui disent les phrases pour lesquelles ils deviennent célèbres à l'écran. On sait. Et je comprends pourquoi on ne le dit pas, parce qu'il y a un côté de magie qui peut perdre. Bref, moi, ça m'a... Je trouve que c'est deux choses. Composer de la musique, chanter, c'est déjà trois choses. Ou faire une performance en live, voilà. Il y a des gens qui sont hyper bons en comme showman. Je vois pas pourquoi on se priverait de les utiliser. Enfin bref, eux, leur carrière était finie. Et c'était l'occasion pour moi de revenir sur d'autres histoires. Parce que quand j'ai lu ce long article super intéressant donc de Mental Floss, je me suis dit, il me semble que ce n'est pas la première fois que j'entends ça dans ma vie. Il me semble qu'il y a d'autres histoires. Et j'ai fouillé un peu pour essayer de les retrouver. Effectivement, il y a plusieurs autres histoires, dont une qui vient de Belgique. Technotronic. Si vous êtes né dans les années 80 et avant, vous avez déjà entendu cette chanson. Si vous êtes né après, c'est sûr que vous avez entendu leur plus grand succès, Pump Up the Jam. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Donc ça, c'est en 1989. Et vous avez peut-être déjà vu le clip qui est très Fresh Prince of Bel-Air. Et la fille qui danse et qui chante, elle s'appelle Philly Killingi. Le problème, c'est que c'est absolument pas elle qui a vraiment chanté la chanson. Celle qui a vraiment chanté, c'est Ya Kid K. Et Ya Kid K a aussi composé les paroles. Et là où c'est quand même un peu chaud, c'est qu'elle n'était pas au courant que c'était ça qui allait se passer. Sans son consentement, le producteur a décidé, tu sais quoi? Tu donnes pas assez bien à l'écran, on va mettre une mannequin, donc Philly Killingi, à ta place. Ça a créé forcément une série de problèmes, et à un point où, quand l'album a été ressorti aux États-Unis, ils ont fait la correction et ils ont remis Ya Kid K sur la pochette. Donc voilà, ça s'est plus ou moins bien réglé, disons, de cette manière-là. Il y a d'autres fois où ça s'est vachement moins bien passé, et un des cas les plus célèbres, c'est avec un autre band de cette époque-là. En 1991, donc 91, CNC Factory sortait Everybody Dance Now. Et la puissance de la voix que vous entendez, c'est Martha Wash. Martha Wash n'est pas à son coup d'essai dans ce genre de hit avec une voix hyper puissante parce qu'elle était aussi dans un groupe qui s'appelait The Weather Girls. Weather Girls, si ça vous dit vaguement quelque chose, ils ont fait bon, un petit succès, là, trois fois rien, qui s'appelait... Rain Man. Littéralement, la raison pour laquelle c'est pas Martha Wash qu'on voit dans le clip, c'est parce que les producteurs ont trouvé que, à cause de son âge et de son poids, elle était un-marketingisable. En gros, ils disaient comme, vieille pis grosse comme ça, ça va pas être vendeur, fuck it, on va mettre quelqu'un d'autre à la place. Elle l'a aussi forcément assez mal vécu et il a décidé de poursuivre le groupe, poursuivre les producteurs. C'était donc en 1991. Ça a mis 3 ans. Ça a fini par être réglé hors cours avec Sony et ça a donné lieu à quelque chose d'assez étrange. Déjà, c'était tellement important comme poursuite que ça fait en sorte que aujourd'hui les gens sont obligés d'être tous cités, ceux qui ont collaboré. Et voilà, ça a littéralement changé la loi autour du droit d'auteur. Et Martha Wash, avec sa poursuite, ça a aussi changé quelque chose. C'était la première fois que c'est arrivé. Sony a demandé à MTV, donc qui à l'époque était forcément hyper important dans le business, de mettre un espèce de petit erratum que les vocals avaient été enregistrés donc par Martha Wash et après le crédit pour la personne qui chantait, c'était genre interprétation visuelle ou quelque chose comme ça. Donc assez intéressant. Et le cas qui moi personnellement est mon préféré, celui que je trouve le plus touchant, c'est celui de Lauren Crosby. Ça vous dit vaguement quelque chose, Lauren Crosby, c'est peut-être que vous êtes méga fan des shows musicaux britanniques. Parce qu'elle a fait X Factor en 2005. Elle a passé la première ronde, mais pas la deuxième. Simon Cowell disait qu'elle manquait du charisme d'une star. Elle a fait The Voice en 2013. Elle était reprise par aucun des 4 juges. Mais elle a quand même un énorme succès à son actif. C'est la fille dans le titre de Meat Loaf, I do anything for love, but I won't do that. And I would do anything for love, but I won't do that. No, I won't do that. Et la fameuse partie à la fin de la chanson, donc chantée par Lauren Crosby, c'est celle-là. Si vous avez déjà vu le clip, il y a une magnifique femme qui se balance sur un espèce de fauteuil volant au plafond dans un clip qui dure 8 minutes. Clip qui a été réalisé par un certain Michael Bay. C'était pas le premier choix des producteurs. Ils voulaient d'abord David Fincher, mais David Fincher demandait 1,5 million pour faire le clip, de budget pour le clip, et Michael Bay a demandé moins d'argent. Ne pas gaspiller d'argent n'a pas été vraiment la logique de la suite de la carrière de Michael Bay avec Transformers et tous les films catastrophes. Mais Michael Bay voulait donc une super belle femme. Et Lauren Crosby ne correspondait pas à ça selon lui, donc il a engagé une mannequin du nom de Dana Patrick. Dana Patrick, qui a continué sa carrière de mannequin plus tard, a reçu des propositions de contrats de disques après l'apparition de ce clip, parce qu'encore une fois, c'était huge à l'époque, les clips. Il y avait un MTV genre premiere, il y avait une avant-première du clip sur MTV, et Dana Patrick était là. Lauren Crosby, donc, non seulement n'a pas pu apparaître dans le clip, mais on a su plus tard que elle n'a même pas obtenu un seul centime de droit d'auteur pour la partie chantée. C'était pas la seule chanson sur laquelle elle a collaboré sur cet album avec Meat Loaf. Sur les autres, elle a obtenu son crédit. Sur la chanson « I'd do anything for love, but I won't do that », le crédit de la voix féminine, c'est juste « Mrs. Loud », donc « Madame bruyante ». À la base, elle l'avait fait venir en studio simplement pour donner un genre de template pour que d'autres chanteuses viennent faire la partie à sa place. Parmi les autres chanteuses, il y avait Cher, Bonnie Tyler, Melissa Etheridge, et ils ont trouvé que la partie de ces chanteuses connues n'était pas aussi bien faite que celle de Lauren Crosby, donc ils ont laissé la partie de Lauren Crosby. Et là, vous dites, bon, c'est chiant, mais au moins, je veux dire, un énorme carton à l'époque, numéro 1 Billboard. Elle a pu aller en tournée avec Meat Loaf et faire un peu d'argent. Eh bien, même pas. Parce qu'ils ont engagé une autre chanteuse pour partir en tournée avec elle, avec lui, pardon, avec Meatloaf. Et résultat, encore aujourd'hui, si tu veux voir Lauren Crosby chanter, tu peux aller en Angleterre, je crois c'est là qu'elle va chanter. Et voilà, ça te coûte à peu près 5 balles pour aller la voir parce qu'elle galère encore dans des petits clubs. Et elle dit qu'elle a fait X Factor puis The Voice en disant « Je vois des chanteurs qui ont moins de bouteilles que moi, qui ont juste un nom plus connu, qui pour, dans les mêmes soirées vont avoir 4 fois mon cachet. » Donc j'ai quand même retenté de passer dans ces émissions et ça n'a pas fonctionné, quoi. Donc elle dit qu'elle est déçue, mais qu'elle a choisi de passer à autre chose. Et je trouve ça incroyable que dans un monde où un succès peut te permettre de vivre très bien toute ta vie, elle a été créditée en Mrs. Loud. D'ailleurs, elle a fait un album dans les années 2000 sous son vrai nom, Lauren Crosby. Et je vous laisse deviner le titre qu'elle a donné à l'album pour se réapproprier toute cette situation-là. Si vous le cherchez, vous pouvez taper Lauren Crosby, Mrs. Loud. Voilà, c'est tout. J'ai plus rien à dire pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez d'autres exemples comme ça de choses dans le même trip et vous voulez ajouter un petit complément d'information, ça me fait vachement plaisir. Vous pouvez me contacter Facebook, Twitter, Instagram. Merci à tous ceux qui continuent de me contacter. D'ailleurs, vous me donnez des excellentes idées de sujets. Donc, ça me fait plaisir de voir qu'on fait ça ensemble encore une fois, que vous pouvez participer. Si vous posez des questions, et vous dites, j'ai pas le temps de chercher la réponse ou il faudrait demander à d'autres personnes ce qu'ils en pensent, envoyez-moi, moi ça me fait plaisir de faire ça et d'essayer de gagner un tout petit peu de connaissances supplémentaires à chaque jour. Donc je rappelle, disponible sur Spotify, si vous aimez bien le podcast, si vous abonnez, moi ça me rend vachement service. Si vous voulez l'avoir sans pub aussi et être encore plus impliqué dans le projet, sur le Patreon, patreon.com/DanGagnon podcast. Et moi je vous souhaite une belle fin de journée.